Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, spread, totals, player props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Votre podcast de True Crime québécois et canadien.
Préféré.
Ici Hélène.
Et Mélanie. De retour de vacances.
Woohoo! We're back, bitches.
We are back. Et avec, on a tellement de choses à vous dire.
C'est
capoté. On se regarde les deux avec l'air de...
On est comme, OK, on commence par
perdu.
Quoi?
De perdu, oui.
OK, attends, de un, on doit vous dire qu'il y a Navy qui dort dans la pièce à côté, mais ça se peut qu'il se réveille à tout moment.
Lol, qui dort.
Qui dort pas dans la pièce à côté. Fait
qu'on risque de l'entendre un peu. Mais ouais. Il n'est pas avec nous, physiquement. Il est dans la pièce d'à côté. Mais sur la caméra, il bouge en taf. Fait que, voilà.
Voilà. Ça, on devait vous avertir de ça.
Oui.
Ensuite, première grosse annonce. Le 4 octobre.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'on fait?
On a un événement avec le Festipod.
Oui!
On va faire un épisode live à Montréal, dans Hochelag. Écoute, c'est plate qu'on le dise, mais c'est sold out déjà.
Oui, c'est comme, on aimerait ça vous dire, ben, achetez des billets, venez nous voir, mais c'est déjà sold out.
Ouais, les billets se sont vendus tellement rapidement.
C'est...
Ils ont fait l'annonce et le lendemain, j'ai dit, ah, c'est vrai, j'ai oublié de publier par rapport à ça. Puis, il y avait plus de billets déjà.
Ouais, avant que nous, on le pose sur nos réseaux, il y avait plus de billets.
Exactement.
Fait que c'est un peu fou, là.
Merci à ceux qui ont réussi à mettre la main sur des billets.
Ouais, on va être contents de vous voir.
Peut-être qu'on va organiser un autre live, éventuellement à Montréal. Dans le cadre d'un événement, mais juste pour nous. Ça pourrait être le fun. En tout cas, dites-nous si ça vous dirait.
Ça vous intéresse.
On organise ça. Ouais. On verra. À discuter.
Je sais que dans les commentaires du Festipod, il y en a qui voulaient qu'on aille dans le bas du fleuve.
Oh,
peut-être un jour.
Écoute, déjà aujourd'hui, il faut que j'aille à Québec, je suis déjà brûlée. deuxième annonce, on a une méga, 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 méga annonce.
Ça, là, gang, ça fait tellement longtemps qu'on veut vous le dire, mais qu'on n'avait pas le droit.
Ça fait depuis juin 2024 qu'on attend de vous dire que...
On a écrit un livre!
On a écrit un livre!
Oh my God!
On a écrit un livre! On a écrit un livre! Nous sommes officiellement des autrices.
Oui.
Et on est, comme vous pouvez l'entendre, vraiment excités. le livre sort le 16 octobre.
En librairie.
En librairie. Il va y avoir une prévente à partir de la semaine prochaine, genre?
Ouais, ben en fait, à partir du 19 septembre. Donc, si vous écoutez cet épisode lundi, donc normalement, le vendredi 19 septembre, ça peut être acheté en pré-vente.
Yes.
Ouais.
Et on est extrêmement excités. J'ai hâte que vous voyez la couverture. Elle est insane.
Puis les histoires qu'on a choisies,
C'est
toutes des vraiment bonnes histoires.
C'est un livre qui est très... authentique à qui on est et à notre podcast.
Oui.
C'est Hélène et moi, chaque chapitre, c'est une de nous qui l'écrit et l'autre fait des commentaires. Même formule que notre podcast, parce qu'on sait que c'est ce que vous aimez. Puis on se fait souvent dire que c'est la formule conversationnelle et easygoing que nos auditeurs, nos auditrices aiment. Donc, on a gardé cette formule-là pour le livre. Et bref, je pourrais vous en parler pendant une heure, mais... donc, c'est ça. Sort en librairie le 16 octobre prochain.
Oui.
On vous dira quand la prévente sur nos réseaux sociaux va être disponible.
Mais oui, d'après moi, c'est guettez nos réseaux sociaux.
Ils nous ont dit 19 septembre.
Oui.
Malade. On a écrit un livre. Ça s'appelle Crime de Bine.
Oui, Crime de Bine, le livre.
Ouais. Et voilà, on parle de 12 cas.
Oui, 12 cas québécois-canadiens.
Exactement. Ouais. Bon, on ne va pas en dire plus parce qu'on pourra en parler pendant vraiment longtemps.
Vraiment,
Et voilà, c'est la grosse annonce de cette semaine.
Sinon, le bonus de septembre qui va sortir la semaine prochaine, oui. Justement, c'est comme un chapitre de livre, mais qui finalement ne sera pas dans le livre pour différentes raisons. Mais si vous êtes curieux d'aller écouter ça, abonnez-vous à notre Patreon. Devenez une bine de luxe.
Tu vas-tu l'expliquer pourquoi ce n'était pas dans le livre?
Ouais, je vais l'expliquer. Ouais. Je vais rajouter un petit début avant ce qu'on avait enregistré.
OK. Parce qu'on était censé avoir 13 cas. Finalement, on en a 12.
Mais c'est correct parce que 13, ça porte malchance. Oui. C'est correct.
Ça fait plus true crime, 13. Ouais, c'est vrai. On n'a pas le temps d'en écrire un autre parce que ça s'est décidé cette semaine, puis ça part à l'impression cette semaine.
Ouais, c'est ça.
voilà. voilà. aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire?
Je pense que c'est tout. Je pense qu'on peut se lancer dans l'histoire.
J'ai quelque chose de chargé aujourd'hui.
OK.
Pour toi.
Je sais que tu m'as dit le nom, puis je connaissais pas.
Je vous parle aujourd'hui. Ben, je voulais faire une suite à ton spécial lutte de cet été qui a été vraiment populaire. Les gens ont vraiment aimé ça. Bon, je sais, je te parle de boxe, par exemple. Je suis au courant. Donc, comment
c'est pas le même
je suis
sport.
Au courant, c'est pas le même sport. Mais, bon.
Mais, thématique.
Thématique qu'on se pète là.
Dans un ring.
Dans un ring.
Ouais.
Voilà. J'ai googlé différence entre lutte et boxe. J'ai googlé. Écoute, je suis en connaissance de cause.
Okay.
Donc aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Dave Helton Jr. Parce qu'il y a un senior.
Oh, OK.
Donc toi, tu n'en as jamais entendu parler, c'est ça? Tu sais aucunement c'est qui?
Non.
Parfait. Tu vas aimer l'histoire. Ben, tu vas aimer. Écoute, cette histoire-là,
être fâché puis déprimé.
Exactement. Okay. Exactement. Ça a été très difficile à écrire et à... En tout cas, je vais pas en dire trop. Je vous dirai mes sources après.
Ah, OK.
Parce que ça gâche un peu le punch.
Ça va.
Helton fait ses débuts professionnels comme boxeur contre Noël Torres le 10 février 1981, ma fête. Ah, ben pas en 81, je suis pas en 81. Mais le 10 février, c'est ma fête. À l'aréna Paul Sauvé sur la rue Beaubien à Montréal. L'aréna a été démolie en 92. Ben,
ah, okay.
Il gagne son premier combat par KO au deuxième round. Un mois plus tard, il se bat contre Kevin Coffey. Une autre victoire par KO après un seul round. Helton commence à faire jaser. Il devient rapidement célèbre parce qu'en 8 ans, jusqu'en octobre 90, Helton est invaincu. 28 combats, dont 27 victoires, un match nul, 0 défaite.
Quand même.
Il est solide.
Ouais.
C'est lors de son combat contre Alain Bonamy, le 25 octobre 1990, au Forum de Montréal, que sa carrière parfaite se termine. Il perd un match pour la toute première fois. Il est dévasté, mais il arrête quand même pas de la boxe.
Il fallait que ça arrive à un moment donné.
Exactement. Après une pause d'un an, Helton est de retour dans le ring en novembre 91. Il se bat contre Anthony Ivory et gagne après 10 rounds. Jusqu'en février 2000, il gagnera 13 combats auxquels il participe. Encore une fois, 0 défaite, un seul match nul contre Bonamy encore. Helton obtient les titres de champion canadien des super moyens et de champion nord-américain des super moyens. Deux titres de champion. Le 8 septembre 2000 a lieu un des combats les plus attendus. Helton affronte Stéphane Ouellet. Tu connais-tu Stéphane Ouellet?
Non, je connais aucun boxeur.
Mais Stéphane Ouellet, tu n'avais jamais entendu ce nom-là?
Non, je te dirais que le seul nom de boxeur que je peux dire, c'est genre Mohamed Ali.
OK, c'en est un. Oui.
Bon, c'en est un.
The greatest of all time.
Voilà, je peux te dire lui. C'est tout. Okay, ma connaissance de la boxe s'arrête là.
C'est déjà ça. Donc, Helton affronte Stéphane Ouellet au Centre Molson de Montréal. À cette époque, Ouellet, c'est le champion canadien des poids moyens. Devant plus de 15 000 spectateurs en délire, Helton cède la victoire à Ouellet après 10 rounds. Et là, j'ai googlé Stéphane Ouellet parce que je veux juste connaître un peu ses statistiques. Et j'ai mis un extrait de Wikipédia qui va comme suit. Cette grande victoire contre Helton est cependant la dernière de Stéphane Ouellet. Après une défaite contre Omar Sheikha en avril 2001, il se retire de la compétition pendant 3 ans. Le bout un peu drôle. Tantôt poète, tantôt entraîneur, tantôt dans des combats extrêmes, tantôt transporteur de cadavres. Ce sont des problèmes personnels qui seront venus contrecarrer ses ambitions de boxeur professionnel. J'avais pas le choix.
Faisait plein parler. D'affaires. Poète, transporteur de cadavres, ouais. Boxeur.
Je sais pas ça. À quel point c'est vrai si c'est Wikipédia, ouais. Mais en tout cas, je trouvais ça drôle. Bref. Trois mois plus tard, le 15 décembre, Hilton se bat contre Dingaan Tobela et remporte la victoire après 12 rounds. Il obtient ainsi le titre de champion du monde des super moyens à l'âge de 37 ans. Ce titre lui sera retiré par la WBC, le World Boxing Council, à peine 2 ans plus tard.
Oh.
Je te raconte pourquoi.
Mm-hmm.
La famille Hilton. Je te parle de la famille au grand complet parce que c'est un drame familial, tout ça. La boxe fait partie intégrante de la lignée Hilton. Le père de Dave Hilton, Dave Senior, ainsi que son grand-père, sont aussi des boxeurs à grand succès.
Mmh.
Même leurs ancêtres, les Stewart, étaient des champions de combat à points nus, connus mondialement.
OK. Fait que c'est pas un hasard, là, lui, qui a fait de la boxe. Là.
Non, non. Zéro. Dave Hilton Senior est né en 1933 à Edmonton, puis il vient d'une famille écossaise de nomades qu'on appelait aussi des gitans. À l'apogée de sa carrière, Dave Senior est considéré comme étant un des trois meilleurs boxeurs au monde dans sa catégorie. Il s'entraîne même aux côtés de Muhammad Ali.
Ah! Je le connais!
Dave Senior rencontre sa future femme, Jean McMillan Mills, née à Halifax, mais aussi d'origine écossaise au Québec. Les parents de Jean sont décédés dans un accident de tour lorsqu'elle était jeune. Dave Senior et Jean se marient et ont 6 enfants. Dave Junior, Alex, Matthew, Stuart, Jimmy et une fille du nom de Joanne.
C'est juste des gars.
5 boys.
Ooh.
Dès leur tout jeune âge, tous les fils Hilton sont soumis à un entraînement de boxe extrêmement rigoureux. Ils grandissent dans l'univers de la boxe et y excellent pour la majorité. Les Hilton deviennent rapidement des vedettes au Québec. Ils font aussi souvent la une des journaux parce qu'ils sont tous alcooliques et ont tendance à se battre dans les bars et dans les ruelles. Même s'ils font ici et là chacun des séjours en prison, c'est jamais pour bien longtemps. Les Hilton sont connus pour être grands et très forts, donc personne ne veut s'y attaquer. Aussi, Frank Cotroni, ton pote, c'est un ami très proche de leur père. À l'époque, Frank Cotroni est à la tête de la mafia montréalaise. D'ailleurs, le chien de Frank s'appelle Hilton. Et Frank deviendra aussi plus tard le parrain d'une des filles de Dave Junior.
OK. Hey, ça fit full avec mon épisode de bonus du mois d'août sur Vic Cotroni.
Donc, c'est Frank Cotroni qui négocie un contrat avec le grand promoteur de boxe Don King pour 3 des frères Hilton, Dave Junior, Alex et Matthew. Ils font ainsi leur entrée dans les grandes ligues de boxe. Je te parle un petit peu des carrières des frères Hilton, de la famille au complet.
Okay.
Bien que le rêve de Dave Junior soit de jouer au hockey... Son père ne lui laisse pas la chance de pratiquer ce sport. Dans la famille Hilton, c'est la boxe et seulement la boxe. Dave Senior entraîne de manière militaire ses fils afin qu'ils deviennent les champions de boxe. À 4 heures du matin, bon temps, mauvais temps, les garçons font de la course pendant que leur père les suit en voiture. Probablement une canette de bière entre les deux. Leur père les oblige à pratiquer la boxe nuit et jour. Pour ce faire, il les empêche d'aller à l'école après l'âge de 12 ans.
Oh.
Ça sert à rien, l'école.
Ben non.
Tu veux boxer.
Ouais.
Toute leur enfance et leur adolescence, les garçons n'ont droit qu'à un seul focus, la boxe. Ils n'ont surtout pas le droit de fréquenter des filles.
Oh.
Dave Senior encourage une atmosphère compétitive toxique entre ses fils. Il les encourage à se battre entre eux de manière extrêmement violente. Alcoolique de haut niveau, Dave Senior s'acharne aussi physiquement sur ses garçons. Dès qu'ils n'écoutent pas les consignes, dérogent de leur entraînement ou font autre chose que boxer, Dave Senior les bat sans retenue. Les garçons ont énormément peur de leur père, qui garde d'ailleurs 50% de tous les cachets que ses fils gagnent dans leur combat.
Ah ouais.
Donc, je t'ai décrit leur carrière par fils. Donc, Jimmy, c'est il est appelé le gras souillé paresseux.
Pauvre
c'est comme
lui.
Ça qu'il est décrit. C'est chien. Ouais. Son père le voit comme un boulet. Fait qu'il s'acharne pas trop sur lui parce qu'il sait qu'il est peine perdue. Jimmy fait quand même un peu de boxe amateur ici et là, mais il devient jamais pro. Il hérite toutefois des dépendances de son père à l'alcool et aux drogues. Alex devient champion amateur canadien. C'est le plus grand rival de Dave Junior. Il se marie avec une Italienne, Olga, et ils ont 2 fils, Davy et Alex. Tu vas voir que dès qu'ils nomment quelqu'un, c'est toujours un nom qui est déjà là.
Ouais, c'est ça. Ils vont pas chercher de nouveaux noms. Eux
parce que Dave, Dave Junior, il l'appelle souvent Davy aussi. C'est comme son
nom. Ça devient mêlant maintenant. Ouais.
Ah, c'est extrêmement mêlant tout ça. Fait que Alex, il y a deux fils qui s'appellent Davy et Alex.
Okay.
Puis Alex, il y a un frère qui s'appelle Davy, puis il y a un père qui s'appelle Davy.
Ouais.
C'est pas fini, là. C'est... Aussi, la majorité des enfants ont Stuart comme deuxième, comme middle name.
Ah ouais.
Leur deuxième prénom à cause de leurs ancêtres.
Ah ouais, OK.
Alex est un père présent et attentionné, mais très agressif. Il est régulièrement arrêté pour conduite en état d'ébriété. Il se ramasse en prison parce qu'il bat sa femme et qu'elle porte plainte.
Mmh.
En prison, d'ailleurs, Alex se fait une gang d'amis. Et apparemment qu'ensemble, ils décident de donner une leçon à un violeur d'enfants qui est en prison avec eux, en le violant collectivement à son tour. Le violeur d'enfants qui a été agressé porte plainte contre Alex puis finit par avoir 5 années ajoutées à sa sentence de 6 mois.
Il était là pour six mois. Puis il a violé un gars, fait que...
Ouais. Voilà. Olga s'est remariée et s'est éloignée le plus loin possible des Hilton. Ses fils, Davy et Alex, ont alors été bannis de la famille Hilton et la grand-mère a fait disparaître toutes les photos d'eux. Ils n'en ont plus jamais entendu parler.
Mais voyons.
C'est leur truc, ça. Ils bannissent des gens de leur famille.
Cancel.
À sa sortie de prison, Alex a eu 2 filles avec une autre femme. Il a tenté de faire un retour dans le ring, mais sans réel succès. Il termine sa carrière de boxeur avec un palmarès de 37 victoires et 11 défaites. Des bonnes statistiques. Matthew. Tout comme ses frères et son père, Matthew est alcoolique, mais c'est un excellent boxeur. Il obtient le titre de champion du monde dans sa catégorie. Malheureusement, Dave Senior force Matthew à mettre en jeu sa ceinture pour toucher de l'argent parce qu'il est endetté par-dessus la tête. Il dit un petit combat, ça ferait du bien.
Ouais.
Matthew, il veut pas se battre parce qu'il se remet déjà d'une blessure aux côtes, mais son père le force. Il participe au combat, mais comme on s'imaginait, il perd sa ceinture. Matthew sombre encore plus profondément dans l'alcool. À une certaine période, ça a l'air qu'il achète un bar à Montréal.
Oh.
Ce qui, pour un profond alcoolique,
c'est pas le meilleur plan. Ouais. Non.
Mais bon. Il termine sa carrière avec un palmarès de 32 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls. Ce qui est extrêmement bon.
Très bon.
Il y a Stuart. Stuart fait un peu de boxe, mais il n'a jamais aimé ça. Il aime encore moins l'atmosphère compétitive toxique qui règne dans sa famille. Adolescent rebelle, il finit par abandonner la boxe complètement au grand désarroi de son père. Un après-midi de septembre 86, Stuart, qui a alors 17 ans, il se chicane violemment avec ses parents. Il quitte la maison, puis il va chercher sa copine Lucy en voiture, même s'il n'a pas permis de conduire. Stuart conduit furieusement et décide de faire la course avec un autobus scolaire. Il perd le contrôle du véhicule et cause un grave accident. Lucy et Stuart décèdent sur le coup.
Hey.
Les frères Hilton ne sont plus que 3. Ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est que... 4, pardon. Ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est que même s'il avait juste 17 ans, Stuart et Lucy étaient parents d'un petit garçon de 8 mois. Nommé Stuart.
Est-ce que son deuxième nom, c'est Stuart?
Ça se pourrait, je ne sais pas.
Stuart. Hilton.
Ce sont les parents de Lucy qui prennent la garde de Stuart puis qui l'élèvent. Et bien qu'il soit un garçon, le petit Stuart a aussi été banni de la famille Hilton. Pourquoi?
Pourquoi, oui?
Parce qu'il parlait français.
Ah, ça c'est...
Non. Joanne, la dernière, mais non la moindre.
Oui.
C'est la première née des enfants Hilton. C'est la plus vieille. Pourquoi on la mentionne jamais? Parce que très jeune...
Elle fait pas de boxe.
Exactement. Parce que très jeune, Joanne a été chassée et bannie de la famille Hilton.
Elle aussi, voyons.
La raison?
Pas de boxe.
Parce que c'est une fille.
Ah.
Puis les filles, ça ne peut pas devenir championne de boxe.
OK, fait que bannie automatiquement.
Ouais, voilà.
Mettons, si elle avait marié un boxeur, peut-être qu'il a accepté?
Oh, écoute, l'histoire ne le dit pas. On ne sait pas. Mais bref, Joanne est élevée par Mary, la mère de Dave Senior. Et là, si tu veux mon avis, c'est la meilleure chose qui aurait pu lui arriver parce qu'elle a grandi dans un environnement normal et sain. Elle se marie, elle a 2 garçons qu'elle appelle Alex et Stuart.
OK, sérieux.
Ah non, ça finit jamais, là. Ça finit jamais.
Mais ouais, non, être banni de cette famille-là, finalement, c'est quand même
c'est
une
la meilleure chose,
chose
qui peut t'arriver.
Ouais, c'est ça.
C'est la meilleure chose. Genre, Jimmy, lui, il était gros. C'était genre la meilleure chose qui pouvait y arriver.
Ouais.
Thank God, il s'est pas fait battre par son père. Puis il a pu avoir
faire d'autres choses que faire de la boxe.
Exactement. Mm. Et finalement, Dave Hilton Jr.
Mm-hmm.
Donc, lui, Dave Hilton Jr. est né le 9 décembre 1963 à Port-Crédit, en Ontario. À l'âge de 3 ans, Dave Jr. fréquente déjà la salle de sport. Son père voit beaucoup de potentiel en Dave Jr. Pour ça, il l'a appelé Dave Jr. À 5 ans, il commence à faire du combat amateur. Il est ouvertement le fils préféré de son père parce que c'est de loin le plus talentueux en boxe. À 16 ans, il remporte déjà le championnat intermédiaire de boxe à Belleville, en Ontario. L'année suivante, il devient boxeur professionnel à 17 ans. Puis, cette année-là aussi, il se marie avec une Italienne du nom de Anna Maria Gatti. Et là, toi, tu connais pas la boxe, mais... En tout cas, les gens qui connaissent ça, Gatti, ça leur sonne une petite cloche.
Ah, OK.
Anna Maria Gatti naît à Naples, en Italie, le 5 août 1963. Ses parents immigrent au Québec lorsqu'elle a 1 an. Anna Maria a 2 sœurs, Josefina et Mirella, puis 3 frères, Fabrizio, Giuseppe, a.k.a. Joe, et Arturo. Arturo Gatti, qui est un extrêmement gros boxeur.
OK.
Donc, surprise, surprise, Joe et Arturo sont aussi des boxeurs. Donc, elle vient aussi d'une famille de boxeurs.
Mm-hmm.
C'est d'ailleurs grâce à la boxe que Dave Jr. et Anna Maria se sont rencontrés parce que les frères d'Anna Maria et les Hilton, ils s'entraînaient au même gym à Montréal, l'Olympia Gym. Donc, Anna Maria est aussi élevée dans un climat compétitif. Selon son père, Giovanni Gatti, un ancien militaire, le Québec est beaucoup trop libéral à son goût. Donc, lui, il dit qu'il préfère élever ses 6 enfants selon la, entre gros guillemets, la méthode italienne. Okay. Sa méthode italienne, j'aimerais dire. C'est-à-dire dans la moralité et la droiture.
Mm-hmm. Un bon catholique.
Voilà. Il est aussi classique. Alcoolique.
Oui, j'allais dire alcoolique, évidemment.
Et il bat constamment ses enfants et sa femme, Ida.
Oui, oui, la bonne façon de faire.
Mm-hmm. Mm-hmm. Bien que Dave Jr. et Anna Maria se connaissent depuis qu'ils ont 13 ans, ils ne commencent à se fréquenter qu'à l'âge de 16 ans, parce qu'ils n'ont pas le droit.
Mm.
Il faut aussi savoir que, autant du côté des Hilton que des Gatti, la virginité avant le mariage, c'est sacré. C'est la chose la plus importante et on va en reparler dans cet épisode.
OK.
Une fille non vierge, c'est une fille souillée, pas bonne à marier. C'est pourquoi, très jeune, à l'âge de 18 ans, le 17 avril 1981, Dave Jr. et Anna Maria se marient. À peine 2 ans plus tard, en 83, ils ont une fille qu'ils appellent Ginny. Son parrain est nul autre que Frank Cotroni.
Oh.
Et Ginny, c'est le nom de la mère de Anna Maria.
Évidemment.
La mère de Dave Hilton. Sorry.
Ah, OK.
Dans les années 80, Dave Jr. et ses frères sont à l'apogée de leur popularité. Ils font des apparitions partout. Ils participent à plein d'événements promotionnels. En plus de leurs combats qui attirent des foules, ils gagnent par-ci, par-là. Tout le monde les adore au Québec. Malheureusement, leur popularité est probablement le fait qu'ils ont une certaine protection due à leur connexion avec les Cotroni.
Mm-hmm.
Tout ça leur monte à la tête. Ils commencent à exhiber leur alcoolisme et ils se battent absolument partout où ils passent.
Okay.
Ils collectionnent les petits délits et les petits séjours en prison. Mais encore là, jamais très longtemps.
Mm-hmm. C'est genre
probablement bagarre, à cause de...
Bagarre dans un bar, 2 nuits en prison.
Genre. Par exemple, en octobre 85, Dave Jr., complètement sous, entre dans un bar sur la rue Crescent à Montréal, un fusil à la main. Il crie qu'il va tuer tous les Italiens sur son passage.
OK. Soudainement, il était fâché contre les Italiens?
Oui, parce que je pense la veille, leur avocat a été tué.
OK.
Quelque chose de même. Ça n'a jamais vraiment rapport là. Heureusement, il ne tire pas. Il quitte le bar au volant de sa voiture, mais les policiers le rattrapent rapidement. Ils trouvent le fusil dans la voiture, mais ils peuvent pas l'inculquer de ce qu'ils viennent faire. Ils peuvent juste y donner un conduite en état d'ébriété parce qu'ils n'ont pas été témoins de ce qui s'est passé. Et toutes les personnes dans le bar ont une peur bleue des Hilton. Mmh. Fait qu'ils se ferment là. Fait qu'il y a personne, il n'y a aucun témoin qui veut parler contre eux.
Mmh.
Fait que, tu sais. Déjà là, c'est des boxeurs. Ils sont 8000. Puis ils sont liés à la mafia.
Ouais, fait que.
Je comprends.
Je comprends. J'aurais fermé ma gueule probablement.
Exactement. Donc, personne n'ose dénoncer le grand et puissant Dave Hilton Jr. Donc, c'est ça. Il est seulement accusé de conduite en état d'ivresse. Il reçoit une amende de 400 $ puis perd son permis de conduire pendant 90 jours. Tu sais, il s'en sort toujours avec une petite tape sur les doigts. Dave Junior boit sans arrêt et il s'entraîne comme plus ou moins, rendu là. Il a maintenant 20 livres en trop,
oh.
Ce qui est en la boxe, c'est extrêmement...
Ben oui.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup, ouais.
En 86, il y a un accident de moto et il se casse la jambe. Ça l'empêche de monter... Oui. Ça l'empêche de monter dans le ring pendant près de 2 ans. Donc, pendant ces 2 années-là, qu'est-ce qu'il fait? Il continue sa vie de débauche, puis il prend un autre petit 20 livres parce qu'il arrête de s'entraîner. C'est à ce moment-là que son frère Stuart décède dans son accident d'auto. Donc, après les funérailles, rien ne va plus au sein de la famille Hilton. Ça va. En 91, Dave et Matthew, complètement sous, se rendent cagoulés dans un Dunkin' Donut de Dollars des Ormeaux à 2h du matin. 2h30 du matin. Ils font un vol avant à main armée. Eux autres, ils se disent 2h30 du matin. Leur butin, attention, 164 $.
Hey boy.
Divisé en deux. Non, il y avait un conducteur aussi, fait que divisé en trois.
Ça valait vraiment, vraiment la peine, les gars. Wow.
Ils sont chauds, raides. Ils s'enfuient en voiture, mais pendant qu'ils partent, la caissière du Dunkin' Donut, elle appelle le 911 puis elle réussit à décrire en détail le véhicule d'Hilton. Mm-hmm. C'est sûrement qu'elle décrit que c'est deux grands gars qui font peur. Donc, ils se font rapidement rattraper par la police et ils sont accusés de vol qualifié, de possession d'armes non enregistrées et de complot. Ils sont condamnés à 6 mois de prison. Fait que là, ils s'en vont en prison, ils sortent, genre 3 minutes après. Et les deux, ils font un retour dans le ring comme si de rien n'était. Le 5 mars 93, Dave Junior est à nouveau arrêté et condamné à 14 jours de prison pour conduite en état d'ébriété. C'est ridicule. Il reçoit aussi une amende de 250 $ pour bris de ses conditions parce qu'il est en probation à ce moment-là. En gros, tous les Hilton font des allers-retours en prison, souvent pour conduite en état d'ébriété ou pour bris de conditions, dans les années 80 et 90. Vers la fin des années 90, ça se gâte un peu. Les Hilton passent de petits délits à agressions sévères.
Ooh.
À 35 ans, le 16 avril 1999, Dave Junior est arrêté pour agression sexuelle sur 2 jeunes filles de moins de 14 ans.
Ooh.
C'est le début de la fin pour Dave Hilton Jr. Bien que l'identité des jeunes filles ne soit pas divulguée, le procès entourant la vedette québécoise est extrêmement médiatisé. Hilton est inculpé de 9 chefs d'accusation, dont agression sexuelle, attouchement sexuel, incitation à des attouchements sexuels et contact sexuel. C'est très grave et il risque 10 ans de prison. Bien qu'il nie tout et qu'il plaide non coupable, le 17 mars 2001, Dave Junior est reconnu coupable des 9 chefs d'accusation. Il est condamné à 7 ans de prison, ce qui est vraiment pas beaucoup.
Ouais. Mieux que tout ce qu'il y avait jusqu'à date, mais c'est quand même une grosse agression. Là.
Et la WBC lui retire officiellement son titre de champion de boxe.
Oh.
Dave Junior est humilié. Son avocat demande sa mise en liberté sous caution pour qu'il puisse s'entraîner pour son prochain combat. Le juge dit non.
Non, qu'est-ce que t'as pas compris? C'est fini.
Non.
Et fini sa carrière.
Non, même pas.
Non?
Non. Si jamais vous voulez les détails du procès, genre vraiment en détail, ma version des faits, j'ai fait 2-3 épisodes là-dessus.
Ah ouais, okay.
Isabelle Richer était là.
Donc, évidemment, elle était tout le temps là.
Donc, si vous voulez vraiment tous les détails du procès, elle, c'est cette partie-là qui raconte.
Okay.
Hilton fait appel de sa décision, mais le 14 avril 2022, cet appel est rejeté. Et là, 2 ans plus tard, en août 2004, Dave Junior refait surface dans les médias. Ses victimes, dont l'identité était cachée parce qu'elles étaient mineures, sont maintenant majeures et décident de dévoiler leur identité. Coup de grâce, les jeunes filles victimes d'agressions sexuelles répétées par Dave Hilton Jr. ne sont nul autre que Ginny et Anne-Marie Hilton, ses propres filles.
Ah, Carlis.
J'ai des frissons à chaque fois que...
Puis elles ont eu le courage de porter plainte. Ouais. Alors qu'elle avait que, genre, 14 ans.
Exactement.
Wow, OK.
Ben, rendu en 90, ouais, il était mineur.
Mais... Ouais, quand même.
Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, spread, totals, player props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
C'est d'ailleurs pour ça que je ne pouvais pas te citer mes sources, parce que ma source numéro un pour cet épisode, c'est le livre que Ginny et Anne-Marie ont écrit. Ça s'appelle « Le cœur au beurre noir ». Qui décrit, je l'ai acheté, qui décrit comme en détail, mais des gros détails, qu'est-ce qui s'est passé avec leur père.
Oh my God. Wow.
Je t'ai mis quelques extraits dans la prochaine partie de l'épisode. Mais si jamais vous voulez les encourager, puis je l'ai acheté, ça, il coûte genre 13-14 pièces. Donc, je te raconte le cauchemar de Ginny et d'Anne-Marie.
OK.
Ginny et Anne-Marie ont eu une enfance extrêmement difficile. Elles sont nées dans une pauvreté extrême et elles ont vu leur mère se faire battre violemment, quotidiennement. Très jeunes, les sœurs ont vite appris qu'il fallait suivre les règles de leur père, sinon elles allaient aussi y passer. Ginny et Anne-Marie ne font pas de boxe, mais elles aiment aller au gym pour regarder leur père s'entraîner. Lorsqu'elles entrent au primaire, la famille Hilton est déjà très connue. C'est dans ces années-là que la mort de Stuart et le vol au Dunkin' Donuts surviennent. Mm. Donc déjà là, in and out de prison.
Mm-hmm.
Dans le livre, elle dit, d'ailleurs, elle dit, souvent j'arrivais le soir, puis là, ma mère disait, ah, ton père est en prison pour les prochains jours. C'était genre, OK.
Cool. Mais il était pauvre, il faisait pas d'argent.
Oui, il faisait de l'argent, mais il buvait. Puis il faisait la fête.
Puis il ne gardait pas pour sa famille.
Ah, absolument pas. Dave Junior boit 24 heures sur 24 et sa rage et sa violence ne cessent d'augmenter avec les années. Côté carrière, ça stagne un peu. Dave Junior fait sans cesse des séjours en prison parce qu'il commet des vols, non pas pour sa famille, mais pour subvenir à ses besoins en termes d'alcool. La mère des filles, Anna Maria, accumule les emplois et est presque jamais à la maison. À l'adolescence, les choses continuent de dégringoler. Dave Junior commence à s'attaquer à ses filles. Elles se font battre pour toutes sortes de raisons stupides. Par exemple, Ginny est considérée comme une très jolie fille et est plutôt populaire à l'école, surtout auprès des garçons. Il y a un jour, un garçon du nom de Michael qui s'est intéressé à Ginny. Dave Junior l'a appris. Bien que ce soit aucunement sa faute,
non.
La pauvre Ginny a reçu 10 violents coups de corde à danser, donc coups de fouet directement sur les fesses. Puis, tu sais, on se rappelle que c'est un boxeur professionnel.
Il est fort.
Exactement. Dave Junior menace ensuite sa fille en lui disant que si elle adresse à nouveau la parole à Michael, il va lui raser le pubis lui-même. Puis, il va obliger sa sœur Anne-Marie à donner le rasoir et les poils à Michael. Tu vois, genre de père?
What? C'est fucked up.
Oui. Ah, c'est pas fini. Ce n'est qu'un début. À ce stade, les filles sont humiliées et tabassées quotidiennement. Tout ce qu'elles souhaitent, c'est que leur père ne s'attaque pas à leurs deux petits frères, Davy et Jackie Stewart, nés en 91 et en 92. Puisque leur mère travaille 15 heures par jour, Ginny et Anne-Marie élèvent seuls leurs frères. Elles s'occupent aussi de leur petite chienne, une pitbull du nom de Luna, qu'elles adorent plus que tout. Lorsqu'il n'est pas en prison, Dave Junior, qui ne fait plus vraiment de combat, est à la maison et boit comme un trou, en compagnie de ses nombreuses maîtresses et ou prostituées. Dave Junior est accro au sexe et ne s'en cache pas du tout. By the way, Navy est de retour.
Oui.
T'as écouté, il ne voulait pas de l'eau. Partout dans la maison, on retrouve des revues et des films pornographiques. Les enfants aperçoivent souvent des femmes faire des fellations à leur père en plein jour dans le milieu du salon. Ils se promenaient toujours aussi tout nus. Et ça, leur mère le sait, mais elle ne peut rien faire parce qu'elle a peur de se faire battre aussi. Évidemment, les maîtresses et prostituées se font aussi maltraiter par Dave Junior. Une fois, apparemment, il a brisé le nez d'une prostituée puis il l'a obligé à manger du poulet cru en putréfaction.
Arc!
C'est écrit dans le livre.
C'est la pire personne.
Comme... Ah, 100%. Ah. C'est même pas la pire partie.
Puis, dans ma tête, on dirait que quand tu racontes l'histoire, j'ai l'impression que c'est vraiment vieux comme histoire, mais non, c'est genre dans les années 90.
Mm-hmm.
C'est
mm-hmm.
fou.
Mm-hmm.
Et genre, les filles ont comme notre âge, un petit peu plus vieilles.
Non, elles sont plus vieilles. Parce que c'était en 80... Ça, les pires années, c'était 95 à 98.
OK.
Ça, on est...
Genre début 80, mettons.
Ouais. Un petit peu plus vieux que nous. Quarantaine avancée.
Ouais. Mm.
Le vrai cauchemar d'Anne-Marie a commencé à l'âge de 11 ans. Une nuit, alors qu'elle dort dans la chambre de ses parents, un bruit la réveille. Elle se rend compte qu'elle est seule avec son père qui a le pantalon baissé. Anne-Marie est surprise quand son père approche son sexe de ses lèvres puis la force à lui faire une fellation. La pauvre fillette pleure puis elle comprend pas ce qui est en train de se passer. C'est un cauchemar, la réalité. À partir de cette nuit-là, Dave Junior oblige sa fille de 11 ans à lui faire une fellation à tous les jours, sans exception.
Oh my God, je vais vomir. Arc.
Arc. Si elle refuse, elle se fait battre, évidemment. À tous les jours, il répète à sa fille que c'est pour son bien puis que c'est parce qu'il l'aime. Puis qu'il, t'sais.
Mm.
Il dit souvent aussi qu'il va arrêter. Mensonge. Dans la maison règne une atmosphère de terreur puis de contrôle suprême. Anna Maria, la mère, est jamais là. Puis Dave Junior s'assure que ses filles ne soient jamais seules, comme ensemble,
mm-hmm.
pour les empêcher de discuter entre elles.
Mm.
Il les monte aussi régulièrement l'une contre l'autre avec des mensonges. Il dit n'importe quoi à n'importe qui, juste pour être sûr que personne ne se parle. T'sais. Dave Junior s'assure aussi d'anéantir toute parcelle de confiance en elles que ses filles pourraient avoir. Il leur répète sans cesse qu'elles sont laides, qu'elles sont stupides, qu'elles ont l'air de vraies salopes, puis que personne ne voudrait jamais les épouser. Puis, tu sais, ils sont jeunes, ils ont 11-12 ans,
mm-hmm.
ils croient. Pour Ginny, son premier souvenir d'agression sexuelle venant de son père remonte à ses 3 ans. Elle se souvient qu'une fois, elle avait mis du vernis à ongles, puis toute fière est allée montrer ses doigts à son père, qui lui a répondu qu'elle avait l'air d'une salope. Puis après ça, il a dit « Tu veux voir ce que le vernis à ongles fait faire? » Puis il a baissé son pantalon, puis il a mis les mains de Ginny sur son sexe.
3 ans, tabarnak! Mm.
À l'âge de 10 ans, Ginny a commencé à avoir des seins. Ils sont devenus la nouvelle obsession de son père. Une fois, il a levé le chandail de sa fille, puis il a pris des photos de sa poitrine, qu'il a ensuite envoyé à tous ses amis pour rire d'elle. À 11 ans, quand Ginny a 11 ans, Dave Junior a commencé à lui demander de venir dormir avec lui. Il faisait dormir sa femme dans le lit de sa fille. Comme il choisissait avec qui il dormait, dans le fond. Puis les filles n'avaient pas le choix de dire oui.
Oh, okay.
Il pouvait maintenant dormir paisiblement avec les deux mains sous le chandail de sa fille. Un après-midi, il décide qu'il va lui enseigner comment embrasser avec la langue. Dans le livre, Ginny a dit « Embrasser son père avec la langue est une sensation tellement étrange. J'étais pétrifiée. »
Encore une fois, je vais vomir.
T'as pas fini de vomir. C'est lorsque Ginny a 12 ans que son père la force à le masturber pour la première fois. Rituel qui sera répété quotidiennement pendant plusieurs années. Ce qui est triste dans tout ça, c'est que les deux filles disent qu'après avoir satisfait leur père sexuellement, il était doux et gentil avec elles. C'est pour ça qu'elles le faisaient.
Mm.
Dans le livre, Anne-Marie a dit « Mon corps me faisait parfois si mal et j'en avais tellement assez de me faire battre qu'à l'occasion, je lui faisais des fellations où je le masturbais sans chigner.
Mm. »
Puis Ginny écrit « Je savais que c'était mal, mais pour une des premières fois de ma vie, il était plutôt gentil avec moi et ne me battait plus. » Fait que c'est soit tu fais ça, soit tu t'as fais mal.
Ouais.
Fait que tu sais. Et c'est pas fini. Anne-Marie et Ginny sont les esclaves de leur père qui tombent ivres-morts presque tous les soirs. Elles le portent jusqu'à son lit, le déshabillent, le bordent. Elles ont aussi des tâches qu'aucun enfant ne devrait avoir, comme donner le bain à leur père, lui laver les cheveux et lui donner des massages. En 97, la grand-mère de Dave Junior, Mary, qui habite en Ontario, tombe malade. Dave Junior décide d'aller la visiter pendant quelques temps pour prendre soin d'elle. Il amène avec lui Ginny. C'est lors de leur première nuit passée dans un motel miteux de la ville de Sarnia que Dave Junior agresse sexuellement sa fille. Il prend le soin d'utiliser de la vaseline parce qu'il a déjà essayé une fois auparavant de la pénétrer puis ça n'avait pas fonctionné. Parce que elle a 12 ans. Puis cette fois-ci, malheureusement, ça fonctionne. Les deux filles écrivent dans le livre des trucs genre « Cette nuit-là, mon père me déviergeait » ou des trucs comme ça.
Oh comme j'ai pas de mots. C'est tellement horrible.
C'est horrible.
Oh.
Après quelques temps passés en Ontario, Dave Junior et Ginny reviennent dans la maison. Anne-Marie a un gros choc quand elle voit sa petite sœur extrêmement maigre, limite anorexique. Ginny a été sous-alimentée pendant des semaines parce que son père n'achetait pas de nourriture. Son argent servait juste à acheter de l'alcool. À leur retour, Ginny et Anne-Marie ont passé un seul mois à l'école, juste pour satisfaire le gouvernement pour pouvoir recevoir les prestations d'aide sociale. Qui servent à acheter de l'alcool, on s'entend?
Ouais.
Pas de la nourriture. C'est à ce moment-là qu'Anne-Marie prend son courage à deux mains et avoue à sa grande sœur que leur père abuse sexuellement d'elle. Voici la réaction de Ginny dans le livre. D'Anne-Marie, pardon. Pourquoi ne se contentait-il pas de moi? Chaque jour, je le branlais ou je lui faisais une pipe. Pourquoi touchait-il à ma sœur? Elle était toute menue et fragile, encore une enfant. Quelle était l'étape suivante? Mes petits frères Jackie et Davy? Juste avant le grand combat tant attendu entre Hilton et Ouellet, prévu en novembre 1998, Dave Jr. part pour la Floride pour s'entraîner avec son coach Chuck Tellamy. Fun fact, à ce combat-là, Maurice Mumboucher était là. Ah. C'était le chef des Hells Angels. Il venait de sortir de prison, il avait été acquitté pour deux meurtres l'après-midi même. Il est allé passer sa soirée au match de Hilton et Ouellet. Donc, Hilton emmène sa femme et ses quatre enfants avec lui en Floride. Les Hilton habitent à Miami pendant plusieurs mois. Pendant leur séjour, Hilton accumule les dettes, surtout les dettes d'hôpital, parce que notre cher Dave Hilton Jr. est hypochondriaque.
Et oui.
À chaque fois qu'il y a un petit bobo qui se sent pas bien, il imagine qu'il est atteint d'une maladie grave puis il se rend à l'hôpital. Aussi, parce qu'il se bat sans arrêt, il y a beaucoup de blessures, donc il est souvent à l'hôpital. Et on sait que les hôpitaux aux États-Unis, pas donné.
Non.
Donc, Dave Jr. retourne souvent à Montréal pour des événements promotionnels en vue du combat contre Ouellet. Parfois, il amène sa famille, mais des fois, il se rend seul. Ses enfants et sa femme restent en Floride. Ses séjours sans leur père sont évidemment des séjours de repos pour les filles.
Oui.
Elles se rapprochent d'ailleurs de leur mère puis entament une belle relation avec elle. Elle ne sait toujours pas que son mari abuse sexuellement de ses deux filles.
Mais elle doit peut-être s'en douter, là. T'sais, si elle couche dans son lit...
Ben, tu
sais. Mais non. Elle veut pas penser à ça.
Mais elle s'en doute pas du tout.
OK.
Non.
OK.
Pour aider à subvenir aux besoins familiaux, Ginny se trouve un emploi. Elle travaille plus de 60 heures par semaine pour, en plus d'aider sa mère puis ses frères puis avec les tâches ménagères. De son côté, Anne-Marie entre dans une phase un peu de rébellion. Elle fait même une tentative de suicide. Dans le livre, elle dit je suis mieux morte que vivante. C'est horrible. En février 1998, Ginny parle au téléphone avec son père. Complètement sous. Ginny finit par le traiter de tas de merde et de minable délinquant. Après quoi, elle raccroche.
Bien mérité.
Et là, après un immense sentiment de délivrance et de satisfaction, elle se met à trembler.
Mm-hmm. Genre, qu'est-ce que je viens de faire?
Elle sait que son père risque de la tuer, littéralement.
Mm-hmm.
Motivée par la peur, elle en parle à sa sœur qui la convainc qu'il est temps de tout révéler à leur mère.
Mm-hmm.
Les filles prennent leur courage à deux mains et racontent à leur mère qu'elles ne sont plus vierges et que c'est la faute de leur père. Elle, dans le livre, elle raconte exactement comment ça s'est passé, mais elle dit « Maman, ma sœur et moi, on n'est pas vierges. » Parce qu'on se rappelle que c'est sacré d'être vierge avant le mariage. Oui. Et avant même qu'elles disent que c'est leur père, leur mère, elle a fait comme « Oh shit, c'est mon mari qui a fait ça. » Fait que là,
imagine être la mère qui te fait dire ça.
Elles sont mineures, là, on se rappelle. Donc là, dévastées, frustrées, en tabarnak. Anna-Maria, la maman, elle leur dit qu'elle va tout faire en son pouvoir pour le faire payer. Elle téléphone à son mari pour le traiter de trou de cul. Puis elle téléphone ensuite à ses parents et aux parents de Dave Jr. pour tout leur raconter et leur annoncer qu'elle va le dénoncer à la police. La mère de Dave Jr., Jean, elle demande souvent des nouvelles aux filles pendant les jours qui suivent. Les filles sentent qu'elle les supporte jusqu'à ce qu'un moment donné, elle leur téléphone pour leur dire qu'elle a une idée. Donc, grand-mère Jean, elle leur dit avoir trouvé une idée pour l'histoire de virginité. Parce qu'elle, ce qui l'inquiétait...
Ah, c'était la virginité.
C'était juste qu'elles étaient plus vierges avant le mariage. Donc, elle leur dit qu'elles ont juste à dire à l'homme qu'elles souhaitent épouser que leur ex-copain les a déviergées, mais qu'il ne plaisait pas à la famille. Fait que c'est pour ça qu'elle n'avait pas pu l'épouser. Selon grand-mère Jean, ça réglait la question.
Mm-hmm. Donc, pas besoin de contacter la police.
Non.
C'est correct.
Mais une autre fois aussi, elle a défendu son fils auprès de Ginny en lui disant que probablement qu'il les a violés parce qu'il les aimait trop fort.
Non, c'est pas de l'amour, ça. Non.
Bref, pas si solidaire que ça, grand-maman.
Ouais, c'est ça. Elle voulait comme protéger son fils, au fond.
Ah oui, mais...
Oui.
Anna Maria, la maman, elle porte plainte à la police de la Floride parce que c'est là qu'ils habitent en ce moment. Mm-hmm. Ginny et Anne-Marie rencontrent séparément des policiers pour raconter leur histoire. Le lendemain matin, elles se rendent au Jackson Memorial Rape Treatment Center, un centre qui offre des soins et un soutien complet aux victimes d'agressions sexuelles. Elles passent des examens gynécologiques pour récolter des preuves. Puis des preuves, ils en trouvent en tas. Mm-hmm. Et elles rencontrent aussi un psychiatre. Pour la suite, voici ce que Ginny explique dans le livre. Elle dit... Pour des raisons juridiques compliquées, mon père ne pouvait pas être inculpé en Floride.
Okay.
Donc, Anna Maria et ses filles ont dû recommencer tout le processus au Québec. Ça a été difficile de tout raconter puis de subir les tests une deuxième fois, mais selon les filles, ça en valait vraiment la peine. Au Québec, en mars 1998, Dave Hilton Jr. est tout de suite arrêté et l'enquête préliminaire commence. Il y avait assez de preuves durant cette enquête pour tenir un procès. Entre-temps, Anna Maria amène ses enfants en Floride à l'abri des projecteurs parce que c'est très, très, très médiatisé. Ouais. Arrivée en Floride, le service d'immigration est venu chercher Anna Maria puis le détenu dans un centre de détention pendant 14 jours.
Et?
Parce qu'ils ont reçu une information anonyme selon laquelle elle était aux États-Unis illégalement.
Qui aurait T'sais? Pu faire ça?
Au début de l'année 2001, le procès commence. La famille Hilton est de retour au Québec, puis loge chez grand-mère Gatti. Ginny et Anne-Marie sont adolescentes. Elles doivent témoigner devant plus de 200 personnes. Déjà là, pas facile, mais en plus, dans le livre, Anne-Marie a dit « J'ai senti que plusieurs personnes dans la salle voulaient que cette histoire ne soit qu'un mensonge.
Mm. »
Parce qu'on parle quand même du grand Dave Hilton Jr. Et ce qui est fou, je vous dirais d'aller écouter le podcast d'Isabelle Richer sur audio parce qu'elle, elle décrit vraiment comment le process s'est passé. Et oui, les gens, ils savent pas à ce moment-là que ce sont ses filles.
Okay.
Mais le gars, il est quand même en cours au tribunal pour agression sexuelle sur des mineurs.
Mm-hmm.
Mais la frénésie de la boxe continue.
Il continue à boxer.
Le gars, il fait de la boxe. Il y a encore ses fans. Tout est encore là. Puis là, ils détiennent des fois en attendant le procès. Après ça, il est libéré. Après ça, ils les reprennent. Après ça, il est libéré parce qu'il brise ses conditions. Après ça, ils le reprennent encore. Ça arrête jamais.
Okay,
il y a des chances après des chances après des chances. Genre, les gens, ils ne veulent pas que ce soit vrai, cette histoire-là. Il n'y a personne qui veut. C'est horrible. Donc, retour au procès. Pendant 4 jours, en larmes, Anne-Marie et Ginny racontent que les abus ont commencé par leur père par des petits attouchements, puis des bisous, puis ça a évolué vers des fellations, des masturbations et des relations sexuelles complètes avec leur propre père. David Hilton Jr., lui, il nie tout. Il dit que ses filles essaient juste de le piéger. La stratégie de son avocat, il change souvent d'avocat, là, c'est un peu mêlant. Avant, pendant et après le procès, il change tout le temps d'avocat. Mais il y en a un que sa stratégie, Maître Skolnick, c'est d'humilier les victimes en leur faisant, par exemple, d'écrire en détail les parties génitales de leur père. Ça, elle en parle dans le livre. C'est gênant d'écrire le pénis de ton père.
Vraiment?
Devant, je sais pas combien, une centaine de personnes. En fait, Maître Skolnick, il souhaite les ébranler pour qu'elles paraissent comme des menteuses. Il va même jusqu'à dire en cours que les filles ont provoqué et aimé les abus sexuels de leur père.
Voyons.
Que leur mère était complice et qu'elle voulait juste toucher la fortune de leur père célèbre. Mais ce qui est ironique dans l'histoire, c'est que le gars, il n'a pas une scène de toute façon. Il voit sa fortune.
Cet avocat-là, prison.
Ah, puis c'est pas prison. Le seul.
Tu peux pas dire ça.
Mais en même temps, quelle autre option il y a que de faire passer les filles pour des menteuses?
Oui, c'est aussi tout le temps ça, les stratégies dans les...
Il n'y a aucune autre stratégie.
Dans les
cas.
Les cas d'agression sexuelle, oui.
Tout le temps.
C'est tout le temps ça. Mais là, Chris, c'est des petites filles.
C'est ses filles!
C'est ça.
Malheureusement pour Hilton, ses filles sont faites solides et, bien qu'embarrassées, elles répondent bravement et clairement à toutes les questions. Voici un extrait du livre. Durant son plaidoyer, Skolnick a affirmé que, malgré les nombreux abus, tout allait maintenant bien, vu qu'il n'y avait eu aucune grossesse ou aucun avortement et aucune maladie transmise sexuellement. Il a osé dire ça devant les filles. Genre, ah, mais c'est chill.
Oui, c'est chill. Vous êtes pensé.
Pas de bébé.
Mm-hmm.
Puis ça, c'est juste un extrait parmi... Mm.
C'est comme, je sais pas si je veux le lire, mais oui, en même temps, mais...
Ah, tu devrais le lire pour je te le prêter. Après qu'elles aient toutes deux témoigné, elles apprennent que tous les membres de la famille Hilton sont derrière Dave Jr. et sont prêts à témoigner en sa faveur. Ses parents, famille. Les parents des victimes, les grands-parents des victimes, le supportent à 100% et ses frères aussi. Matthew va même témoigner, finalement, en faveur de son frère. Ça n'a aucun bon sens. La partie difficile, c'est qu'à tous les jours, à la sortie du tribunal, Hilton sort avec le sourire aux lèvres. Il signe même des autographes auprès de fans qui l'adorent. J'avais écrit « Arc ».
Je l'ai dit pour toi.
Évidemment, pas pour les défendre, mais à cette époque-là, personne ne sait que les victimes, ce sont ses filles. Pour ne pas identifier les adolescentes, les journalistes ne parlent pas d'inceste, mais d'agression sexuelle.
Oui, parce que l'inceste a été...
C'est ça. Ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot inceste. Comme je l'ai déjà mentionné, 17 mars 2001, Dave Hilton Jr. est reconnu coupable. Il reçoit une peine de 7 ans de prison, puis la WBC lui retire son titre de champion. Encore là, si vous voulez tous les détails du procès. L'année suivante, son appel est rejeté et... il est éligible à la libération conditionnelle en 2003, mais il y renonce puis il demande une nouvelle audience en 2004 parce qu'il veut faire un retour dans le ring en 2004. Donc, en 2004 aussi, c'est la sortie de ce livre,
okay.
Le cœur au beurre noir, que d'ailleurs, Dave Jr. a tenté de bloquer la sortie, mais ça n'a pas marché. À 42 ans, le 19 juin 2006, Dave est libéré après avoir purgé les deux tiers de sa peine. Tu sais? Ses conditions. Aucun contact avec ses filles. No shit. Rester dans un centre de réinsertion jusqu'en 2009. S'abstenir de consommer des substances intoxicantes. Ne pas être en présence de femmes de moins de 18 ans, sauf en présence d'un adulte responsable. Et participer à un programme destiné aux, c'est très spécifique, aux délinquants sexuels qui nient leurs crimes. Et il retourne sur le ring.
Pour vrai?
Parce que sa carrière, elle se finit pas là.
Ouais, il se fait engager encore.
Oui. Ah ouais. Même pendant le procès, il annonce une revanche contre Ouellet parce qu'il a perdu en 98, je crois. Il a perdu. Puis pendant qu'il est en procès, il annonce en décembre 99 une revanche contre Stéphane Ouellet et là, il gagne. Et c'est là qu'il obtient sa ceinture, en décembre 99. Le procès commence en janvier 2000.
Puis là, il se fait enlever
sa ceinture après. Il ne l'aura pas gardé longtemps, non. Mais le combat a quand même lieu. Les accusations sont sorties. On ne sait pas que c'est ses filles,
mais
on sait que c'est un pédophile.
Ouais.
Puis la boxe a lieu quand même. Ça n'a pas de bon
sens. Non, ça n'a pas de bon sens.
Je te raconte un peu ses démêlés après, parce que sa vie de fauteur de troubles ne s'arrête pas là. En 2007, il est arrêté, puis est renvoyé en prison pour avoir menacé et agressé sa nouvelle copine. Il est finalement acquitté parce que sa copine abandonne les charges. En janvier 2009, il est de nouveau accusé par la même femme d'agression sexuelle, de voies de fait et de lésions corporelles. Mais la victime retire encore une fois sa plainte. Hilton est acquitté. C'est une vraie joke. Après le retrait de cette plainte, un juge fait signer à Hilton, et ça, j'avais l'impression que c'était une joke aussi, un document dans lequel il s'engage à ne pas troubler l'ordre public pendant un an.
Ah, c'est signé donc.
C'est signé donc, tu peux pas le faire. Ça marchera pas. En mai 2009, la ville de Laval interdit à Dave Hilton de se rendre à Laval. Ah! Sauf pour le tribunal.
Good job, Laval.
Il est banni d'une ville.
Comment? C'est la première fois que j'entends ça.
Être je savais même pas ça se pouvait. Il est banni de Laval. Sauf pour les... Aller en cours. Aller dans... Ouais. Il y a des bureaux à Laval.
Ouais.
Je trouve ça drôle. En août 2009, il est accusé d'agression pour la 4e fois en 2 ans par la même femme.
OK.
Et là, il fait un peu de prison, mais il en sort rapidement. Le 28 septembre 2010, il est arrêté avec son frère Jimmy pour menaces et agressions, à la suite de quoi il passe le mois d'octobre en prison. C'est tout le temps une petite joke. Le 29 septembre 2012, 2 ans plus tard, il se marie avec une nouvelle femme. Pas la même qu'il a accusée quatre fois, mais une nouvelle.
Une nouvelle.
Et ils ont ensemble une petite fille le 18 mars 2013.
Oh non!
Elle s'appelle Alicia Alexandra Marianne Stewart Hilton. Et Alexandra, c'est écrit Alex, trait d'union, Sandra.
Interdit.
Pour être sûr d'avoir Alex.
Interdit.
Il y a Stewart aussi.
Ah oh non, mais je veux dire, ce gars-là, faut pas qu'il y ait une autre fille, là. Tabarnak.
Ben, il l'a eu. 2013.
On peut-tu comme y enlever la garde automatique?
Elle a 12 ans, en plus. Là.
Là?
Ces deux filles ont commencé à être... Hein? 2013-2025. Mon calcul est bon. Mon calcul est bon. Elle a 12 ans. Parce qu'on est, on lui souhaite que...
On lui souhaite qu'il...
Que ça se passe. Oui. En novembre 2014, il y a encore des démêlés avec la justice. En janvier 2020, il écope de 30 jours de prison pour voie de fait et menace de mort. En mai 2022, les policiers ont été appelés pour une altercation entre Hilton et son voisin à Châteauguay. Il déménage beaucoup aussi dans cette histoire-là.
Mm-hmm.
Je ne l'ai pas dit ce qu'il était tout le temps, là, mais il déménage tout le temps. En septembre 2023, il plaide coupable à une accusation de menace de mort contre son voisin alors qu'il était encore une fois sous l'effet de l'alcool. Le 28 juillet 2023, le père de Dave Junior, Dave Senior, décède. Et le 10 février 2024, encore ma fin, Dave Junior s'est fait arrêter dans un restaurant de Sainte-Martine parce qu'il a menacé de mort un policier alors qu'il était sous. Il reçoit une probation de 18 mois.
Donc là, il est en prison. Non.
Ouais. Ben, 2024. Ouais, 10,
ouais.
Ça se pourrait. Ben, il est sûrement sorti.
Ouais.
C'est les dernières nouvelles qu'on a eues de lui.
Okay, fait qu'il est encore, il est encore actif dans le coin.
Ah, il n'arrêtera jamais. Là. Mm. Ouais, les années que je viens de tout te dire. 2007, 2009, 2009, 2009, 2010, 2012, 2014, 2020, 2022, 2023, 2024. Genre, il n'arrête jamais. À chaque année, il fait un truc. Les filles aujourd'hui, elles vivent toutes les deux aux États-Unis, Ginny et Anne-Marie. Et elles ont suivi une thérapie pour surmonter tous les abus qu'elles ont subis. Ginny est... il y a quelques années, elle tentait d'obtenir son diplôme d'infirmière en Floride. Mm. Je ne sais pas si elle l'a obtenu. Et Anne-Marie vit dans une base militaire à Chicago avec son mari. Et Ginny a deux garçons. Anne-Marie en a un. Et à ce jour, Davidton Jr. nie toujours ce qu'il a fait subir à ses filles. Ça finit de même. Mais il y a des photos dans le livre des filles, puis ils ont l'air heureuses.
Ben, je leur souhaite tellement d'être heureuse.
Ben, je pense que le livre, ils l'ont écrit parce que ça leur a fait une petite délivrance aussi.
Oui, ça doit faire partie du processus, là.
Mais ça, c'est Anne-Marie avec son mari.
Mm.
Allez acheter le livre. En tout cas, bon. Je suis en train de montrer des photos à Hélène. C'est pas très pertinent pour vous. Voilà.
Merci pour cette histoire.
Il n'y a pas de meurtre en tant que tel.
Non, mais c'est pas doux. Mais je pense que c'est un des épisodes qui m'a le plus dégoûté et mis en tabarnak.
Mm. Ah, puis je t'ai sauvé des détails et des détails et des détails.
Ouais, je te crois. Là, s'il y a un livre complet là-dessus.
Ah ouais, elle décrive beaucoup plus détaillé qu'est-ce qui s'était passé. Ça n'avait aucun bon sens. Il les traitait comme de la pure merde. C'était dégueulasse. Fait que voilà, l'histoire de Dave Hilton Jr.
OK.
Mais tu sais, c'est aussi... T'sais, ils viennent d'une famille de fous.
Oui, famille de fous.
De génération en génération en génération en génération, ça n'arrête pas. Là.
Mm-hmm.
C'est toutes des alcooliques, toutes des batteurs, toutes des. L'inceste, là, ben, j'ose croire que c'est une première et une dernière.
C'était peut-être pas une première dans la famille, là, c'est ça, on sait pas.
On sait pas.
Oh, c'était une famille de fous qui recevait des coups sur la tête à longueur de journée aussi. Là.
Exactement.
Ça ne devait pas aider.
Mm. Mm. Non, ils sont toutes débiles. Fait que thank God que Joanne soit pas élevée dans cette famille-là.
Ouais, Joanne s'en est mise sortie. Là.
Oui, ouais. Parce que c'était une fille.
Mm.
Et voilà l'histoire d'aujourd'hui.
OK. Ben,
bon retour.
Bon retour. pour changer de sujet, on a une demande spéciale pour vous, chers auditeurs. On a besoin que vous nous envoyiez vos meilleurs mimes de Saint-Jérôme.
Ouais. On en a quelques-uns, mais il faudrait les retrouver.
Ouais, il faudrait les retrouver. Mais
Shootez-nous ça.
Shootez-nous ça, c'est pour un truc spécial qu'on voulait faire avec ça.
Et pas juste négatif, ça peut être positif aussi. Là.
Oui, oui.
Pas juste négatif, mais voilà. Vu que c'est rendu notre trend.
Mm-hmm. Voilà, c'était notre demande. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Et on vous revient dans 2 semaines ou dans une bonne sur Patreon.
Yes.
Et
n'oubliez pas d'aller acheter notre livre en prévente la semaine prochaine.
Oui. OK, bye.
Bonne journée. Bonne journée. Oh, enfin, je connais. J'en reviens pas qu'on fait annoncer notre livre. Ah, c'est capoté, complètement buzzant, puis c'est même trippant.
Crime de Bin est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Hervé. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binkou! Bye!
Bet365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up. You get early payout on parlays, too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply.